Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur notre site internet www.rdwa.fr. Et nous sommes au studio avec Sébastien Rouillet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sébastien, ta présence ici est un petit peu sur l'instigation de votre grand-père, Gaston Fugier, qui nous avait pris contact pour nous annoncer et au moins nous informer de ce périple que vous aviez fait. Exactement. Entre 2012 et 2013 sur un parcours extrêmement long, hein, qui allait de l'Europe jusqu'à l'Asie, aux abords de la Mongolie ou même en Mongolie même.
En Mongolie même, ouais, exactement. En fait, le départ, c'était de Lille, donc un petit village en Suisse, dans le canton de Vaud. Et puis l'objectif, c'était Oulan-Bator, donc la capitale de la Mongolie. Et donc départ mi-juin 2012. Et puis le retour s'est fait début de l'année 2013.
Ce périple, donc, a duré plus de 6 mois.
Plus de 6 mois, ouais, exactement, ouais.
Et quels souvenirs vous en avez gardé?
Formidable.
J'imagine.
Formidable. Ouais. Non, des belles images et tout. Donc le voyage d'aller s'est fait assez rapidement. En fait, j'étais en Mongolie au bout d'un mois. Donc c'était vraiment, je devais être tenu par des visas. Donc je devais vraiment rentrer en Russie à une date fixée, en Mongolie idem. Donc au bout d'un mois, donc début août, j'étais en Mongolie. Après, j'ai bien visité Bourlingué dans la Mongolie, dans tout le pays. J'ai prolongé mon visa encore d'un mois pour rester un peu plus longtemps. Et ensuite, je suis ressorti donc, début septembre pour revenir sur la Russie, traverser la Russie. Et en fait, entre-temps, j'ai rencontré des amis en Mongolie qui étaient eux originaires de France, qui faisaient aussi un voyage idem. Et du coup, on s'est retrouvés à Novosibirsk, une ville en Russie, dans le milieu de la Russie. On a fait le voyage de retour ensemble pendant bien 2-3 mois, ouais. Et après, je suis rentré, donc j'étais plus tranquille, on va dire, au retour. J'étais moins tenu par des délais, des visas. Donc je suis plutôt parti sur l'Ukraine, plutôt que de rentrer directement en Suisse. Et là, j'ai passé bien 2 mois en Ukraine. Et après, j'ai encore traîné un peu sur les Turquies, petit détour par Istanbul avant de revenir vraiment sur la Suisse.
Alors, pour aller dans ces pays, est-ce qu'il faut un bagage linguistique pour pouvoir te faire comprendre?
C'est mieux. J'étais pas très bon en anglais, j'ai juste un petit anglais de voyage. Puis après, c'est vrai qu'on m'a dit qu'en Russie, puis c'est le cas, je l'ai constaté, l'anglais passe uniquement dans les grandes villes, où il y a des universités, des étudiants, comme ça. Donc après, j'ai fait 3 mois de russe en cours du soir, avant de partir. Déjà juste pour maîtriser aussi la langue cyrillique, l'alphabet cyrillique, parce que tous les panneaux routiers, sur les cartes, tout est en cyrillique, en fait. Et après, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué de se faire comprendre. On parle beaucoup avec les mains. À peu près de fil en aiguille, en étant vraiment immergé tout le temps avec les mêmes gens, on commence à se comprendre gentiment. Ouais.
Alors, ce périple, vous l'avez fait au volant d'une deux chevaux. J'imagine que la deux chevaux, c'est quand même la simplicité même en cas de problème, c'est ça?
Exactement, ouais. C'était aussi le but, c'était de pouvoir tout réparer moi-même. En fait, je devais vraiment compter que sur moi-même, si on veut, en cas de problème. Donc, c'est vrai que la deux chevaux, c'était ma première voiture, c'est toujours aussi ma voiture maintenant. Donc c'était une deux chevaux type Azam de 1964, donc c'est pas non plus une toute dernière. Et puis j'avais vraiment appris grâce à un club à la bricoler et puis toutes les pales un peu principales qu'on pourrait avoir dans ce genre de voyage. Et puis j'ai emporté quasiment chaque pièce à double si on veut. Niveau moteur, moteur boîte de vitesse, j'avais vraiment de quoi faire en cas de problème. Et heureusement que j'ai pris des pièces.
Et vous aviez un chargement de quel poids donc
C'est dur à dire comme ça, vraiment le poids, mais elle était vraiment bien chargée. Niveau pièces, déjà moteur, un peu de suspension comme ça. Après, j'avais aussi beaucoup de vivres, si on veut, dans les longs trajets. Par exemple, dans le désert mongol, il fallait vraiment avoir une autonomie de presque une semaine. Et aussi, en essence, j'étais à 45 litres d'essence sous les longs bouts, où il y a vraiment plus de station-service. J'avais vraiment de l'essence et de l'eau en quantité. Ouais. Donc, elle était bien tassée ouais, sur l'arrière.
Ouais. Une bonne voiture, donc hein,
Je recommande.
Oui.
Non, c'est vraiment parfait. C'est vraiment idéal pour ça. Et c'est vrai que elle a vraiment un impact sur les gens assez extraordinaire. Parce que déjà, rien qu'en Europe, quand on s'éloigne un peu des pays où elle était vraiment commercialisée à grande échelle, les gens se retournent dans la rue, sont vraiment très attentifs à ça. Elle a un look vraiment formidable. Et vraiment, arrive en Russie, ils les ont vus, si on veut, que dans les films. Par exemple, ils me sortaient souvent les films à Louis de Funès. C'était les films qui étaient en fait acceptés pendant qu'il y avait le mur, si on veut. C'était les seuls films qui pouvaient passer un peu les frontières. Et eux, c'était Fantomas, ils se nouaient d'avoir vu une deux chevaux dans ces films-là. Et quand je leur expliquais d'où je venais, où j'allais, ils étaient très admiratifs et puis très... ils encourageaient, mais ils étaient quand même un peu... Ça les étonnait vraiment, quoi. C'est vrai que c'est un long voyage.
Ouais. Cette idée de partir sur des contrées lointaines, qu'est-ce qui a animé cette volonté?
Je sais pas, je pense que c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. J'ai toujours voulu partir loin, longtemps. On peut être livré à soi-même, si on veut, pour voir comment on peut se débrouiller, repousser un peu ses limites. Après, la Mongolie, je sais pas, c'est vraiment le... J'ai vu une fois une émission avec des paysages, je trouvais ça vraiment fantastique. Les gens aussi, je voulais vraiment aller découvrir ce pays qui nous a l'air un peu, pas imaginaire, mais vraiment très lointain et mystérieux. Et puis après, ça se fait tout seul. C'est une fois on a une étincelle, après il faut juste un peu l'alimenter, puis après ça se prépare assez facilement.
C'est une idée que vous auriez envie de recommencer?
Oui, sûr. Après, c'est pendant 7 mois, disons qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut. J'avais démissionné de mon poste auprès de mon employeur, c'est une durée beaucoup trop longue pour lui. Il y a aussi toutes choses, appartements, des choses comme ça qu'il faut aussi résilier, des assurances. Il y a quand même pas mal de préparation, on va dire, logistique derrière. Que ce soit aussi pour les visas russes, mongols, c'est quand même. Les Russes sont assez pénibles, surtout pour les visas. Donc c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, on va dire. On décide pas de partir d'un jour à l'autre en Mongolie, il faut quand même préparer. Mais c'est sûr que si j'avais un peu plus de temps maintenant, je le referais. Peut-être pas au même endroit, mais ailleurs. Mais je recommande la Russie, vraiment.
Est-ce qu'il est plus facile d'organiser ce voyage en étant basé en Suisse ou plutôt qu'en France? Au niveau diplomatique, est-ce qu'il y a moins de complications?
Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est vraiment kiff-kiff. Non. Ils sont embêtants pour tout le monde, si on veut. Donc les Russes, ils veulent vraiment avoir, comme on dit, une marche-route, en fait. Ils veulent savoir tel jour où on se trouve, où c'est qu'on dort, des choses comme ça. Donc ça, c'est leur visa qu'ils appellent tourisme, valable un mois. Et si on veut pallier à ça, il faut qu'on ait un visa de business de 3 à 6 mois, c'est ce que j'avais pris, où là, on a un peu une liberté de mouvement. Mais il faut un peu contrer les lois pour pouvoir aller où on veut, si on veut.
Est-ce que vous avez été, je ne sais pas si on peut dire sublimé par les villes que vous avez croisées sur la route? Est-ce qu'il y a une similitude sociétale entre ce que nous on vit en France et ce que vous avez vu lors de votre voyage?
Je dirais oui, dans les grandes villes, genre par exemple Moscou qui est vraiment une énorme ville, on retrouve vraiment les universités. Toutes ces villes un peu comme ils appellent anneaux d'or, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est vraiment des villes riches, où il y a vraiment des riches, bon ici des pauvres, faut pas non plus croire, mais où on retrouve vraiment des magasins comme on aurait en France, que ce soit de cosmétiques ou alimentaires. Après quand on passe vraiment la barrière de l'Oural, si on veut la chaîne de montagnes qui sépare la Russie en deux, là on tombe vraiment dans des villes assez sales, si on veut sombres, où c'est du chauffage à charbon ou pétrole. Et où les gens vivent vraiment dans des petites dachas, on va dire, donc des petites maisons en rondins, avec la toilette au fond du jardin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus pauvre qu'on a chez nous. Après, on voit aussi souvent des chiens errants dans les rues. Pour eux, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on arrive comme ça, ça impressionne un peu au début. Après, ils n'ont pas non plus tous l'eau courante. Vraiment, quand on part dans la Sibérie, ils ont encore ces vieilles pompes qu'on pouvait actionner à main au centre du village. Et c'est le seul, on va dire, approvisionnement d'eau courante, de source. Donc, subliminé, j'irai pas vraiment. En fin de compte, c'est vrai que les villes, que ce soit russes ou même mongoles ou Ulan-Bator, c'est vraiment tout chauffé au charbon, c'est très pollué, c'est pas vraiment accueillant. Par contre, les petits villages de pleine campagne, ça, c'est quelque chose de très joli et formidable. Ouais.
Et c'était justement dans les villages que vous trouviez plus de plaisir dans ce périple?
Oui, tout à fait. C'est vrai que même les Russes me le disaient qu'il fallait faire attention aux nouveaux riches russes. Parce qu'ils se permettaient un peu tout et puis ils n'avaient aucune notion en fait. Donc ces nouveaux riches russes, c'est des gens enrichis entre autres, sur le gaz, le pétrole ou d'autres choses pas très propres. Et après ils me disaient vraiment de s'en méfier. Et c'est là en fait dans les petits villages où on pouvait avoir le meilleur contact avec les gens. Parce que c'est vraiment eux qui venaient à notre rencontre, qui cherchaient d'où on venait, pourquoi on voulait aller plus loin. Et puis c'était vraiment des super bons moments passés. Ils voulaient toujours nous donner quelque chose, amener quelque chose. Même qu'on ne veuille pas apprendre comme ça, ils étaient vraiment très insistants là-dessus.
Par exemple, lors d'une panne de la voiture, est-ce qu'il y avait peut-être, comment dire, nécessité de joindre une population ou quelqu'un pour vous aider à réparer s'il y avait?
Alors en fait, il n'y aurait même pas eu besoin de joindre quelqu'un. En fait, le quelqu'un vient à nous tout seul, si on veut. La première panne que j'ai eue en Russie, c'était une panne électrique, en fait. C'est une deux chevaux encore en 6 volts, donc batterie 6 volts. Et ma batterie, en fait, j'ai eu une panne de régulateur de batterie qui a engendré après une panne de batterie. Et du coup, j'étais bien embêté. Je ne pouvais plus rouler avec les phares. Et puis, elle démarrait au démarreur, ça n'allait plus. Donc, c'était que la manivelle. Et à un moment, j'étais arrêté justement dans un petit village de campagne. Et c'est là que les gens sont venus vers moi. Et puis après, on essaie de tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver une batterie 6 volts. Ce qui n'a pas été simple parce qu'ils n'avaient pas de voiture en 6 volts en Russie. Donc, on a dû jumeler des petites batteries de moto en 6 volts en parallèle pour en refaire une. Pour une deux chevaux, on va dire, pour pouvoir redémarrer comme ça. Mais les gens venaient vraiment, sitôt qu'on avait le capot ouvert, ils s'arrêtaient, ils venaient voir réellement, d'une part, étonnés de voir une voiture comme ça qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, et puis voir si réellement on n'avait pas un problème et qu'ils pouvaient nous aider. Ouais.
Alors, je vous posais la question tout à l'heure, si votre une envie vous reviendrait de repartir en voyage, ça serait les mêmes destinations ou est-ce que vous allez visiter d'autres pays ou continents?
Je dirais, il y a tellement d'endroits à voir magnifiques que c'est toujours un peu hésitant. Je ne referai pas le même voyage, ça c'est sûr. Je ne referai pas le même tracé. Après, un endroit où je suis passé un peu trop vite, c'était le lac Baïkal en Russie. Cet immense lac Baïkal, où vu que j'étais un peu tenu par les visages, je devais aller rapidement en Mongolie et je n'ai pas fait le temps que j'aurais pu faire. Donc je pense que si je devais refaire un voyage dans cette région-là, si on veut, Russie, Asie, je ferai un détour par le lac Baïkal, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez en retard ou s'il y avait un problème par rapport à ces dates? Qu'est-ce que vous risquiez?
Ce qu'on risque, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans le pays. A priori, c'est ça. Après, si la date est échue et qu'on arrive avec notre visa échu, ça peut vraiment poser problème. Après, il y a peut-être toujours moyen de s'arranger en faisant peut-être appel aux ambassades. Mais disons que c'est la frontière mongole entre la Russie, c'est pas non plus... C'est pas très centré, on va dire, puis ça peut vite devenir compliqué, puis passer beaucoup de temps à la frontière en attendant. Donc, il faut essayer de respecter ces délais pour pas être embêté, on va dire, avec ça, si on veut.
Je ne sais pas comment sont les gardes-postes à la frontière. Est-ce qu'il existait un système informatique, comme on peut le trouver en Occident, je suppose, ou pas?
Oui.
Et peut-être que c'est ce qui amène certains retards ou... longueur administrative.
Ouais, exactement. Alors bon, côté Russie, c'est vraiment un gros passage. Russie, j'ai pris à la frontière Lettonie-Russie, donc c'est vraiment un gros axe. Il y a des routiers et tout. Donc là, ils ont tous des systèmes informatiques comme on l'aurait chez nous. Après, la première frontière mongole que j'ai passée, c'était entre Ulan-Ude, c'est une petite ville en dessous du lac Baïkal et la Mongolie. Là, c'était déjà un petit peu plus archaïque, on va dire. Tout n'était pas vraiment à jour. Aussi à traduire mes papiers en leur langue à eux, ça devenait assez vite compliqué. Et je suis ressorti par la Mongolie complètement à l'ouest, dans un petit poste de frontière qui était ouvert, on va dire, au passage touristique, enfin aux étrangers depuis pas tant d'années que ça. Et là, vraiment, ils ont commencé à me demander des papiers que j'aurais dû avoir à la frontière à l'entrée, que j'avais pas du tout eu. Et puis là, c'était vraiment un peu catastrophique. Personne ne savait réellement ce qu'il devait remplir pour moi comme ça. Mais ça a été assez simple. Au bout d'un moment, ils m'ont laissé passer. C'est juste des formalités. Et puis. Quand ils voient que tout est en règle, qu'on a rien à déclarer comme ça, ils nous laissent aller. Mais il y a souvent à discuter. Ouais.
Et la nourriture, alors, comment est-elle le long de cette route? Elle doit être très variée, je suppose.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'en Russie, moi, je vivais vraiment dans ma deux chevaux.
Je voudrais juste rajouter quand même, parce que vous parlez depuis seulement la Russie, mais ça passe aussi par toute l'Europe, ce périple. Est-ce qu'il y a une transition qui se fait en allant vers l'Est, ou alors il y a des cassures nettes d'une société ou d'une culture à un certain endroit?
C'est clair que le voyage d'aller, si on veut, en Europe, donc je suis parti, j'ai fait l'Allemagne, République tchèque, Pologne, ensuite la Lituanie, Lettonie, on arrive en Russie. Donc c'est vrai qu'on voit quand même l'évolution au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, en Europe, on a vraiment les campings, si on veut, ça existe un peu qu'en Europe. Et au fur et à mesure qu'on avance, déjà Pologne, c'est déjà moins courant, on va dire, c'est vraiment dans les grandes villes comme Varsovie ou comme ça. Arrive en Lituanie, Lettonie, tous ceux que j'ai trouvés étaient fermés, désaffectés, si on veut, ils n'existaient plus. Et c'est vrai que ça, on voit un peu l'évolution comme ça. Mis à part que la langue change à chaque fois que les gens changent, ça c'est vrai que c'est un peu les choses les plus flagrantes. Les routes qui se dégradent aussi, le prix de l'essence qui diminue au fur et à mesure qu'on avance. Alors ça c'est le côté positif, on va dire. aussi les supermarchés, ça existe aussi beaucoup moins en Russie. Le passage vraiment flagrant, je dirais, c'est l'Oural. C'est là où vraiment on quitte un peu la société comme on connaît, supermarché, des grandes chaînes de restaurants, où vraiment la Sibérie, en fait, petit village, et puis où ils ont encore tout, des petits magasins à chaque village. Ils n'ont même pas de caisse enregistreuse électrique, c'est encore des bouliers. Ils fonctionnent au boulier avec des billes en bois. Donc là, c'est vrai que ça, c'est assez marquant. Assez marquant.
Est-ce qu'on y trouve des produits occidentaux, justement, à partir de cette partie de l'Oural ?
Plus loin, on trouve deux, trois choses, mais même que je n'ai même pas retrouvé chez nous. Donc je pense qu'en fait, c'est pour faire croire que ça vient de, par exemple, de France, mais en fait, c'est juste une étiquette qui est collée dessus. C'est vrai que côté de Sibérie, Oural, on n'a pas. Après, il y a quand même du café, du thé ou comme ça, où ça, c'est des choses un peu universelles qu'on peut retrouver. Mais tout le reste, c'est vraiment un peu de chez eux. C'est fait chez eux, ouais.
Et les produits sont de type, comment dire, bio, écologique, avec peu d'emballage, ou alors c'est de l'alimentation produite par l'industrie qui est proposée?
Alors ils ont un peu les deux, on va dire, donc il y a quand même beaucoup de choses en boîte de conserve qu'on peut trouver. Alors ça c'était un peu le truc, nous c'est vrai que par exemple, pour le thon, on a l'habitude d'avoir une boîte de thon avec du thon haché dedans, et eux ça n'existe pas tout de suite sous ce format-là, c'est vraiment le bout de poisson avec encore les arêtes, des choses comme ça, donc même encore il y a même encore des boyaux du poisson dedans, donc c'est vrai que c'est un peu sous une autre forme. Après tout ce qui est charcuterie, viande, ils ont beaucoup moins que ça veut qu'en France ou qu'en Suisse d'ailleurs, mais tout ça, ça existe quasiment pas. Tout ce qui est comment dire, boulangerie ou pâtisserie non plus, ça j'ai jamais réussi à trouver quelque chose d'équivalent. C'est vraiment le pain de campagne, et puis ça s'arrête là. Après dans les petits il y a beaucoup de petits marchés, que ce soit en Russie, en Ukraine, au bord des routes en fait, où ils ont des étalages, où ils vendent des pots, soit du pot de miel de 1 kg ou 5 kg, carrément la jarre à miel, des fruits, des légumes. Tout se fait un peu comme ça, en bord de route, petit marché où ils vendent des épices et toutes choses. Donc c'est vrai qu'il y a moins de centres commerciaux qu'on connaît chez nous.
Il y a des marchés quand même, comme on peut trouver celui de Die.
Oui,
est-ce qu'il y a des équivalents, et est-ce que c'est un peu le même aspect finalement? Il y a une autre question, est-ce que les habitants de ces régions produisent eux-mêmes leur alimentation?
Alors si on met de côté peut-être la Mongolie, parce que là c'est vraiment quelque chose encore vraiment différent, on va dire, point de vue alimentation, si on reste par exemple Russie, Ukraine, qui sont comme assez proches si on veut, niveau contact avec les gens, ou langage parlé, et puis alimentation, c'est vraiment, on trouve dans chaque un peu petit village, il y a tel jour, le marché qui se fait, où il y a des déballages, ou que ce soit des fruits, des légumes, ou de la viande, du poisson, des choses comme ça. Ça, on retrouve un peu comme on pourrait avoir à dire, exactement. Après, c'est vrai qu'en Mongolie, eux, bien sûr, ils produisent ce qu'ils consomment. Il y a peut-être à Oulan-Bator, où c'est comme une ville qui est un peu en pleine expansion, où en fait, il y a quand même beaucoup de tourisme, si on veut, dans cet endroit-là. Et là, il y a aussi des magasins alimentaires où on peut trouver un peu des choses comme on pourrait trouver en Europe. Après, vraiment, le nomade dans sa yourte produit ce qu'il consomme. Donc, il produit son lait, son fromage, sa viande, que ce soit de la chèvre ou du yak ou comme ça.
Pendant ce voyage, mis à part peut-être les complications de la deux chevaux, est-ce que vous vous êtes senti en toute sérénité, ou parfois certaines angoisses étaient là aussi?
Je dirais, il y a toujours un peu au début, quand on fait ça, les gens nous mettent un peu en garde. Souvent, c'est ce qu'on voit à la télé, en fait. On se dit que rien n'est en sécurité ailleurs. Et puis c'est un peu un a priori qui sera un peu faux. Mis à part qu'il faut quand même rester vigilant, parce qu'il y a un peu des truands partout. Mais j'ai jamais été vraiment en danger, en fait. Donc, comme je disais, je vivais dans ma deux chevaux. Je dormais dans ma deux chevaux. J'avais aménagé un lit avec mon garde-manger sous le lit. Et c'est vrai que je dormais en fait en pleine nature, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de camping, comme je disais avant. Donc, on se mettait dans un coin de forêt ou comme ça. Et le seul danger à un moment que j'aurais pu avoir, où les Russes m'ont mis en garde, c'était les ours. Ils ont en pleine Sibérie, il y a des grandes forêts de pins et de feuillards. Il y a vraiment des ours qui pourraient attaquer si on laisse de la nourriture ou comme ça à proximité de la voiture.
Ouais. Vous en avez aperçu ?
Que des empaillés au bord de la route à vendre. Mais en vrai, non, je n'en ai pas vu. Non.
Ah, ils vendent des ours empaillés en bord de route.
Exactement.
Donc.
Ouais.
Et vous savez qui achète ce genre de la population ou des touristes ?
Je ne pense pas. De toute façon, ce n'est pas la population du coin. Je pense que c'est des touristes russes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est immense, la Russie. Donc il y a des gens, des Russes que j'ai rencontrés à Moscou, qui n'étaient pas du tout allés où je suis allé, en fait, au lac Baïkal. Ils vivent donc, ils sont nés en Russie, mais ils ne sont jamais allés là-bas. Point de vue même pas vraiment financier, mais ils n'ont jamais pris le temps d'y aller. Et après, il y a aussi beaucoup de Russes qui sont, comme ils disent, les nouveaux riches, qui bougent beaucoup en Russie, que ce soit pour les pêcher ou comme ça. Je pense que ce genre de choses leur était destiné. Ouais.
Vous vous êtes retrouvé invité par des gens chez eux,
oui.
Soit en repas ou alors ils passaient la nuit, ça vous est arrivé?
Oui, tout à fait, oui. Je ne voulais pas en fait profiter, si on veut, de gens bien plus pauvres que moi, si on veut. Je ne voulais pas faire un voyage en profitant de gens sur ma route. Mais des fois, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. Et en fait, on les vexe même si on refuse. Donc c'est vrai qu'en Russie, les Russes paraissent un peu froids, si on veut, au premier abord. Une fois qu'on parle un peu avec eux, qu'on discute, qu'on dit d'où on vient, où on va, qui on est, en fait, le langage commence à se faire. Et puis, c'est des gens très accueillants et très, le cœur sur la main. J'ai été hébergé plusieurs fois. Donc ils nous obligent même à rester le soir à manger, à dormir, non pas dans la voiture, mais chez eux. Et ça, c'est des choses formidables. Hein, formidables.
la nature est très présente parmi eux. Hein. Je crois qu'elle est vraiment indissociable de la population, sûrement plus que, par exemple, aujourd'hui en France, où il y a une telle exode rural que la campagne est devenue soit une industrie d'agriculture, ou alors pour le tourisme. Mais il existe encore une... Comment dire, une authenticité dans ces contrées qui ne sont pas encore imprégnées de l'Occident.
Oui, je dirais oui. Après, bon, la Mongolie est un peu aussi en plein essor. Donc, c'est vrai que si on regarde les nomades, par exemple, le contraste qu'on pourrait avoir, c'est qu'avant, ils ramenaient, si on veut, leur troupeau à cheval. Et puis maintenant, la plupart, c'est à moto. En fait, ils ont des petites motos. Parce que pour eux, c'est quand même beaucoup plus pratique, on va dire, plus rapide. Donc, c'est vrai quand on voit ça, nous, ça nous choque un peu. On se dit, mais c'est... C'est dommage, parce qu'en fin de compte, ils les ramènent à coups de klaxon et puis ça casse un peu ce qu'on pouvait s'imaginer, ça, en fait. Mais pour eux, c'est quand même bien plus pratique. Après, côté Russie, c'est vrai, pleine Sibérie, ils sont encore à chacun cultiver ce qu'ils consomment. Et pour l'instant, la Russie est toujours en embargo total sur les OGM, par exemple. Donc, ils n'en ont pas. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un plus. Ils sont peut-être plus... Comment dire, ils sont plus dans le passé de ce côté-là que nous, mais en fin de compte, c'est peut-être à ça qu'on devrait y revenir quand même.
Tout ce périple, toute cette aventure, vous en avez fait un blog qu'on peut trouver sur Internet. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner son adresse ?
Oui, alors c'est plus loin vers l'Est, blogspot.com. Donc l'Est, il faut juste mettre L, trait d'union horizontal EST. Et en fait, c'était le blog que j'avais fait donc, dès mon départ, en 2012, et que j'ai essayé de tenir en fait, le plus à jour possible le long de mon périple. Donc ça dépendait un peu de la connexion Internet que je pouvais trouver. Donc en Europe, il n'y avait aucun problème, on a du Wi-Fi un peu partout. Russie, dans l'anneau d'or aussi, cercle d'or, il n'y avait pas trop de problème. Après, il fallait vraiment trouver des cybercafés, chose qui se fait en fait beaucoup, que ce soit en Russie, Sibérie, côté Sibérie ou Mongolie. C'est dans des petits villages comme ça, ils ont un endroit avec une connexion Internet où les gens du village peuvent venir... faire ce qu'ils veulent avec Internet. Si on veut. Il y avait beaucoup d'enfants en fait, qui jouaient aussi dans ces cybercafés. Quand il n'y avait pas de gens qui servaient ça, enfin, qui payaient pour l'utiliser, ils mettaient à disposition des jeunes pour jouer à des jeux en ligne comme on aurait chez nous, par exemple. Ouais.
Voilà, disons que Internet n'est pas chez le particulier encore dans ces pays.
Non, pas partout. En Russie peut-être, oui, mais après ça avec Mongolie, avec les yourtes, c'est juste pas possible. Ils ont la télévision quand même via satellite. Téléphone, il y a une couverture téléphonique assez incroyable en Mongolie. C'est vrai qu'ils doivent pas avoir les mêmes émetteurs, peut-être que nous, pas les mêmes normes non plus d'émissions que nous. Mais Internet, non, ils n'avaient pas partout. Donc il fallait vraiment aller à la capitale, Ulan Bator, ou dans des autres grandes villes de Mongolie pour avoir des cybercafés, si on veut.
Pour revenir au blog, et puis pour les personnes qui sont passionnées de voitures anciennes, on peut ici aussi y déceler certains trucs pour réparer hein, sur ce blog-là, je vois.
Ouais.
Il y a même des personnes qui renvoient des commentaires sur la manière de réparer. Ou...
Exactement, ouais. Ouais, ça c'est aussi, j'ai eu une panne un peu embêtante, donc c'était vraiment dans les pannes que j'ai eu, un peu les plus gros, et j'ai eu une soupape, si on veut, c'est une soupape d'admission dans les culasses qui a grillé, donc ça j'ai pu réparer moi-même parce que j'en avais, il n'y avait pas de problème. Après j'étais bien embêté avec une panne électrique, c'est même pas un alternateur, c'est encore un dynamo sur ce modèle de deux chevaux, et j'étais embêté en bon moment, donc du coup les gens, connaissances que j'avais qui étaient restées sur mon Europe, ils ont envoyé des messages pour essayer de trouver la panne comme ça. Donc c'est vrai que j'étais loin en fait de tout le monde, mais je restais comme en contact grâce à ce blog. C'était vraiment, je pense, quelque chose de nécessaire. Et puis tous les gens qui ont suivi étaient très, 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 très contents d'avoir quelque chose comme ça. Ouais.
C'est par pure passion que vous êtes parti sur ce continent asiatique. Vous n'avez reçu aucune aide pour le faire.
Non, je ne voulais pas en fait. Je voulais vraiment rester. C'était quelque chose que je voulais faire pour moi. Et c'est vrai que pas mal de monde m'ont dit, mais pourquoi t'as pas demandé des sponsors, des choses comme ça? Certainement, des entreprises m'auraient aidé, mais je voulais pas en fait. Je voulais rester maître de mon voyage. Et puis, si par hasard ça se passait mal, ou si par hasard ça me plaisait pas en cours de route, je voulais pouvoir rentrer en ne devant rien à personne. C'était vraiment ça le but. Donc, non, j'ai tout fait moi-même, je me suis débrouillé tout moi-même. Après, beaucoup de gens m'ont aidé, que ce soit en conseil, en don de pièces pour la voiture, des choses comme ça. Ça, c'est sûr, mais pas vraiment financier.
Est-ce que vous avez vu des concerts pendant ce voyage? Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver à une soirée ou une fête avec de la musique, non?
Mais même pas, non. Je suis pas tombé, non, concert pas, non. Par contre, on entend des fois du musique ou comme ça. Après, on se renseigne un peu vers les autochtones, savoir ce que c'est, ou pour amener un peu du son comme ça, c'est sûr. Mais je suis pas malheureusement pas tombé pendant un concert, non. J'ai pas eu la chance.
Et vous avez ramené de la musique sur un support quelconque
Oui, j'ai pris là justement avec moi deux trois CD. Donc c'est autant de la musique, si on veut, typique, comment dire, typique du pays, si on veut. La musique, enfin, le nom m'échappe, mais vraiment du pays. Depuis toujours. Après, la musique réellement qu'ils écoutent eux, parce que c'est pas, ils écoutent pas non plus de la musique folklorique de leur pays. Et puis la musique un peu mélange en plusieurs cultures qu'on peut trouver, que ce soit mongole ou d'autres pays aux alentours. Ouais.
Ah oui, tout à l'heure, vous parliez de motos. C'était des motos de quel pays qui étaient à leur disposition?
C'était énormément japonais. Les Mongols ne s'entendent pas du tout, on va dire, avec les Coréens. Il y a vraiment une haine vraiment marquante et qu'on voit, que ce soit dans les rues, par exemple, d'Oulan-Bator, vraiment des autocollants, des choses comme ça, des bars interdits aux Coréens. Donc, ça, c'est assez choquant quand même, si on veut. Ils ne s'entendent pas vraiment avec les Chinois non plus, parce que les Chinois essaieraient d'empiéter sur leur terre. Et c'était beaucoup de. Que ce soit les voitures comme ça, c'était japonais. Ouais, c'était énormément japonais, moto japonais. Et puis, sinon, il y en a beaucoup qui roulent encore avec des véhicules russes, que ce soit des petits bus un peu qui ressemblent aux bus VW de marque Yaz, russes, qui sont increvables, on va dire. Et puis des jeeps aussi, des jeeps russes. Ouais.
La Mongolie, en fait, c'est vraiment le pays que vous avez préféré, là. Je ne sais pas comment vous dire, c'est peut-être pas une préférence, mais c'est celui qui vous a le plus marqué.
Oui et non. Point de vue des paysages, oui. Clairement, c'est la Mongolie. Ouais. Parce que c'est juste incroyable. En fait, quand on bouge un peu à travers le pays, on passe. De forêts de pins et de sapins au désert de Gobi, donc il y a un désert de sable un peu rocailleux, et après on peut même remonter sur des hauts sommets de montagnes enneigées. Donc on a vraiment l'impression de tous les panoramas possibles dans un seul pays. Et puis c'est des pertes aussi de steppes vertes à perte de vue, enfin, c'est vraiment immense. Et vraiment d'avoir les animaux en liberté, sans construction, si on veut, mis à part les villes, mais sans construction fixe, juste en ayant des yourtes, des chevaux, des yaks, des chèvres. Comme ça en liberté, c'est juste quelque chose de fantastique qu'on ne retrouve pas ailleurs, réellement. Après, il y a aussi la Russie qui m'a énormément plu. Je pensais à la base juste la traversée, c'était presque une formalité pour moi. Ça ne m'embêtait pas de la traverser, mais donc je pensais vraiment passer rapidement sans avoir vraiment d'intérêt là-dessus. En fait, les gens, c'était quelque chose de fantastique. J'imaginais pas du tout les Russes aussi accueillants que ça. Là, c'était vraiment fantastique. Ouais.
Un prochain voyage, certainement dans les mêmes destinations?
Peut-être, disons que ouais, si. Après, il y a plusieurs voyages qu'on peut faire, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Si c'était en restant avec la deux chevaux, parce qu'elle est toujours là, donc elle roule toujours. Il faut juste la réparer un peu, deux, trois choses qui ont un peu bougé. Mais si c'était un peu dans ces contrées, je pense plutôt la roue de la soie, en passant plutôt par l'Iran, donc plutôt par le sud que le nord, ce coup-ci, et en remontant à travers la roue de la soie jusqu'à la Mongolie et puis le lac Baïkal, que c'est l'endroit où j'aimerais bien retourner. Ouais.
Il me semble avoir vu la carte de ce parcours qui longe quand même la limite sud de la Russie.
Exactement.
Et est-ce qu'on peut y déceler une certaine tension par rapport aux pays qui se trouvent plus au sud, qui sont quand même en tension avec les conflits actuels? Est-ce que ça se ressentait déjà à ce moment-là? Et
Ah.
pareil pour l'Ukraine, comment était l'ambiance à ce
Non, c'est
moment-là?
justement ça, c'était un peu, c'est la désolation qu'on peut voir maintenant de nos jours actuels. C'est-à-dire quand je suis passé en Ukraine, il n'y avait pas du tout de tension, quoi que ce soit. Peut-être, j'étais aussi en Crimée, j'ai fait quelques semaines en Crimée, donc c'était encore la Crimée à l'époque ukrainienne. On sentait déjà là, il y avait deux, trois mouvements qui étaient pour revenir russe, si on veut, mais c'était aucune tension dangereuse. Enfin, c'était juste des slogans, des papiers dans la rue. Et c'est vrai que je suis passé dans des villes qui sont maintenant complètement dévastées par la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que ça, c'est très désolant. Mais quand je suis passé, moi, c'était encore paisible, si on veut, en paix.
Et pour le reste du continent, il y a quand même d'autres pays aussi qui sont frontaliers.
Ouais.
Est-ce que on perçoit quelque chose à ce niveau-là? Non, pas
Pas
forcément.
forcément. Après, c'est vrai qu'en Russie, la Russie, c'est tellement grand qu'en fait, il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Quand
Oui.
on voit les Russes côté Moscou, ils sont vraiment peau blanche. C'est-à-dire que quand on arrive plutôt côté Baïkal, c'est déjà le type un peu asiatique. Donc, vraiment les yeux bridés, le teint de peau beaucoup plus foncé. Et il y en a beaucoup qui disent, par exemple, je ne suis pas russe, je suis tatarstan. Je suis, donc, des anciennes cultures ou des choses comme ça. C'est vrai que l'Empire russe, à une époque, a engouffré un peu toutes ces cultures en une seule république, mais ça ne l'a pas fait l'unanimité partout. Mais après, ils ne sont pas non plus... C'est vrai que c'est un peu le côté soviétique. Si on veut, ils n'osent pas vraiment dire ce qu'ils pensent non plus. Ils restent assez discrets sur le point de vue.
Quelle est votre formation, si vous avez suivi des études? Et est-ce que ce sont celles-ci qui vous ont amené à cette idée de partir comme ça?
Pas du tout. Non, études, même pas plus que ça. Donc, je suis électricien, électricien de métier, si on veut. Donc, chez nous, c'est le CFC, donc Certificat Fédéral de Capacité. C'est un peu comme vous, on fait 4 ans, si on veut, d'apprentissage. Après, on a le papier en poche. En fait, j'ai travaillé après comme ouvrier pendant 2-3 ans. Et bon, j'ai fait mon école de recrue en Suisse, vu que c'est encore obligatoire, l'armée est obligatoire. Et après, c'était vraiment l'envie de partir, une fois qu'en plus j'étais libéré de toutes ces formalités. Et c'est vrai que niveau études, à ce moment-là, j'avais vraiment un anglais de voyage, mais je maîtrisais vraiment que le français. Et puis après, c'est juste l'envie de le faire. Et puis il faut se lancer, quoi. Après, on apprend en route et puis on se débrouille au fil des jours.
Vous êtes de quel endroit de la Suisse?
Du canton de Vaud. Donc, sur les côtes, si on veut, du lac Léman. J'habite vraiment, donc l'île, c'est un petit village qui se trouve en fait au pied du Jura, donc la barrière de montagne du Jura, qu'on retrouve aussi chez vous, si on veut. Et c'est vraiment côté francophone.
Eh bien, Sébastien, merci en tout cas d'être venu nous présenter cette aventure. Est-ce que dans un proche avenir, vous vous préparez à repartir?
Pour l'instant, c'est juste des idées. C'est vrai que j'ai des impératifs qui sont tombés. C'est vrai que j'ai repris des études en cours d'emploi, si on veut, toujours dans le domaine électrique. Donc c'est vrai que pendant ces prochaines années, à court terme, si on veut, je suis quand même un peu pris par ça. Mais le jour où j'aurai de nouveau un peu plus de temps, c'est sûr que je referai un voyage peut-être pas aussi long, peut-être pas aussi loin, comme on disait avant, mais c'est sûr que l'envie de repartir est là, bien sûr.
Eh bien, Sébastien, merci en tout cas d'être venu.
Merci à vous.
Est-ce que tu peux nous présenter un morceau de musique? Nous allons peut-être parler aussi de Gaston Fugier, votre grand-père.
Oui, tout à fait. Qui, sans lui, je ne serais pas là à être interviewé par vous aujourd'hui. Donc en fait, Gaston Fugier, qui est mon grand-père, mari de Nicole Fugier, ma grand-mère, en fait, m'ont suivi dans tout le périple grâce au blog. Donc on se répondait par message, des choses comme ça. Ils étaient très admiratifs par, je pense, ce voyage. Et dernièrement, je leur ai offert en fait un livre qui fait tout la trace en fait du voyage, qui est un format, on va dire, papier du blog. Et ils étaient très contents. Et c'est un fidèle auditeur de vos émissions. Et il a eu l'idée de vous proposer justement cette interview en fait pour montrer aux autres ce voyage et puis donner envie à d'autres personnes. Exactement. C'est comme ça qu'on est arrivé là aujourd'hui. D'ailleurs, je le remercie par ces quelques mots.
Et ce livre, les auditeurs peuvent le trouver par le blog?
Par le blog, exactement. Ouais. Ils peuvent me laisser un message sur le blog. Et puis, s'ils sont intéressés par le livre, ou tout autre conseil, bien sûr, si quelqu'un compte partir dans ses contrées, ou soit des questions plutôt mécaniques, point de vue de la deux chevaux, j'y répondrai dès que possible, sans aucun problème, bien sûr.
Il y a une question encore. Est-ce que vos capacités de gérer l'électricité vous a été utile pour proposer ces services à des gens que vous avez croisés sur cette route?
Oui, il y a 2-3 conseils. Quand j'étais hébergé, des fois en Russie, c'est vrai qu'on voit un peu les installations électriques qu'ils ont là-bas. C'est quelque chose de catastrophique. Comparé à chez nous, c'est vrai que c'est pas du tout. C'est hors norme, on va dire. Puis 2-3 fois, on a juste un peu parlé comme ça d'électricité, 2-3 bidouilles et autres. Exactement. Après, j'ai pas travaillé, si on veut, dans ces pays. J'ai fait que de passer. Ouais.
Alors, Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter un de tes morceaux que tu as découvert dans ces pays?
Bien sûr. Alors déjà, si on prend le premier, qui serait vraiment la musique traditionnelle du pays qu'on peut écouter là-bas, c'est le titre, c'est Jakan Chaga, qui est vraiment une musique des steppes, si on veut, qu'on peut avoir. Et après, le deuxième serait plutôt un mélange de diverses cultures, en fait, où un des musiciens est d'origine mongole, qui chante en mongol. Un autre est bulgare, et le percussionniste est français. Et en fait, ça, je n'ai pas pu l'écouter, si on veut, sur place. Il n'y avait pas de concert prévu au moment où je suis passé. Mais on me l'a conseillé là-bas, et c'est vrai que c'est vraiment un mélange fantastique. Le titre, Bayanolgi. On prendra Bayanolgi, qui est le nom d'une ville en Mongolie.
Eh bien, nous écoutons. Merci, et puis bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.